Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport dans le département à travers ses différents acteurs, associations, structures et entreprises. Aujourd'hui, nous sommes avec l'association France Congo Brazzaville qui organise une série de randonnées solidaires. Les fonds récoltés par la participation des marcheurs servira à subvenir aux besoins de l'hôpital de Kinkala. Puis nous serons avec l'entente Conneret Vibré 72 de handball. L'association s'est vue récompensée par un trophée lors des journées de l'arbitrage pour son école d'arbitre et les stages qu'elle donne pendant les vacances scolaires, pour former donc les jeunes à ce rôle essentiel dans tout sport. On commence sans plus attendre avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
Des randonnées solidaires pour venir en aide à l'hôpital d'une ville congolaise, c'est le projet de l'association France Congo Brazzaville. Depuis le samedi 18 octobre et jusqu'au 2 novembre, 7 étapes de randonnée en Sarthe, avec chaque fois l'occasion de découvrir la culture congolaise. L'opération s'appelle En Marche pour Kinkala, c'est le nom de la ville à qui vont être reversés les dons de participation. Bonjour Christiane NK. Loulou.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire de l'association France Congo Brazzaville et vous êtes accompagné d'un membre du bureau de l'association, Alain Germont. Bonjour également.
Bonjour.
Alors, est-ce que d'abord vous pouvez nous en dire un peu plus peut-être sur votre association France Congo Brazzaville?
Tout à fait. Alors, notre association est née l'année 2000, donc elle fête ses 25 ans, un quart de siècle. Et depuis cette date, nous marchons tous les ans, et quasiment tous les ans. Il y a eu une année de Covid où, bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Mais nous sollicitons les communes de la Sarthe pour nous recevoir dans un partenariat qui permet à la commune de présenter son patrimoine, bâti, vert, historique, enfin voilà. Et nous, à la fin de la randonnée, nous présentons notre association avec une exposition-vente d'objets d'artisanat, des contes du Congo et puis surtout tout ce que nous avons réalisé avec des vidéos, etc.
Alors on va revenir plus en détail sur certains aspects de cette marche. D'abord peut-être sur, revenir sur les actions que mène votre association. C'est des actions de solidarité vers le Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin important de solidarité au Congo. Dans quel domaine par exemple?
Il y a un besoin important de solidarité. Pour nous déjà c'était la santé. Hein, dans un premier plan, mais aussi au niveau culturel, au niveau éducatif. Et donc, le but, c'est de pouvoir aider. Alors, comme notre association est très modeste, eh bien, nous nous sommes cantonnés à une région qu'on appelle le Pool, et qui a l'hôpital principal de cette région. C'est une région de 250 000 habitants, située à côté de Brazzaville. Et c'est un lieu où il y a eu des combats entre les années 90 et 2000. Donc ça a fait beaucoup de dégâts et c'est pour ça que nous avons mis en place cette association.
Et donc vous avez une antenne de l'association là-bas, c'est bien ça?
C'est ça. Nous avons une antenne qui permet de, d'aller chercher les objets que nous envoyons.
Et comment s'articulent un peu les deux antennes, en fait? Comment est-ce que vous travaillez ensemble?
Eh bien, beaucoup par WhatsApp, maintenant que ça existe. On arrive à communiquer avec eux régulièrement.
C'était plus compliqué avant WhatsApp, alors, du coup?
Ah bah, avant WhatsApp, on avait des frais téléphoniques vraiment importants.
Alors, donc, cette marche solidaire que vous organisez, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est un événement que vous reconduisez tous les ans, en fait. Expliquez-nous comment elle est née, en fait, cette initiative.
Ah ben moi, j'étais pas là. Alors juste...
Donc, elle est née parce que nous cherchions un moyen de financer des actions. Nous avions assez facilement des dons de matériel médical parce que les hôpitaux se restructurent régulièrement. Donc, on nous faisait don de matériel. Et sauf qu'à un moment, on s'est dit, mais comment on fait pour envoyer tout ça? Pour aller au Congo, l'avion, c'est trop cher. Et les bateaux, c'est pas donné non plus. Hein, parce qu'on ne peut pas prendre la route, hein, il y a la forêt équatoriale au milieu, donc c'est en bateau obligatoirement. Mais un conteneur, ça coûte vraiment très très cher. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen. Et comme on n'était pas connu, on s'est dit, on va aller chercher des subventions, mais n'étant pas connu, on ne va rien nous donner. Donc il faut qu'on se débrouille. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire? Bon, on a deux jambes, et ben on va marcher. Voilà.
Et alors l'objectif donc de cette marche, on l'a dit, c'est de venir en aide à un hôpital, l'hôpital de la ville de Kinkala. Concrètement, en fait, quels sont les besoins dans cet hôpital?
Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, depuis 2000, il a été envoyé
conteneurs, notamment au départ, puisque l'hôpital avait été plus ou moins, pas détruit, mais bien accidenté, on a envoyé des conteneurs avec des lits, des matelas, mais aussi on en a profité, comme il y avait des places entre les lits, pour envoyer des livres pour les écoles, le lycée de Kinkala, deux collèges, une école primaire. Autrement, après il y avait du matériel médical aussi, parce que dans un conteneur on met quand même pas mal de trucs. Et après il y a eu d'autres opérations qui sont venues, qui ont été faites après, c'est-à-dire que il y a des personnels qui sont venus de l'hôpital de Kinkala au Mans pour se former, ou du moins améliorer leur formation. Alors il y a eu une sage-femme, un infirmier de chirurgie, un autre infirmier et un médecin qui aujourd'hui est le médecin-chef de l'hôpital.
D'accord, donc des gens de Kinkala qui sont venus se former à l'hôpital du Mans.
Voilà.
Est-ce qu'à l'inverse, dans votre association, il y a des gens qui ont pu se rendre sur place?
Quelques personnes sont allées sur place, mais le but c'est vraiment de ne pas dépenser d'argent ici, de ne pas engager ces frais-là. Donc là, le partenariat, c'était entre notre association et l'hôpital du Mans. Donc voilà, l'hôpital du Mans assurait les repas des stagiaires. Voilà, ça, c'était plus intéressant dans ce sens-là.
Et alors, la marche solidaire va se dérouler sur 7 étapes. Le départ a eu lieu à Rouessé-Vassé et se terminera à Conly le 2 novembre. Est-ce que vous savez s'il y a certains marcheurs qui s'engagent sur les 7 étapes?
Ah ben oui,
ben nous.
Mais vous faites les 7 étapes.
On les fait pas tous les ans, mais il se trouve que cette année, on fait les 7 tous les deux. Parce que des fois, on a des contraintes aussi. Hein. On peut être dans un milieu associatif et avoir des contraintes personnelles. Alors là, cette année, on a la chance de faire les 7 et de solliciter un peu les gens pour qu'ils viennent à nos marches. Quoi.
On a formé une commission marche et donc les membres de la commission en général s'arrangent pour être au maximum l'étape.
Et alors ce sont des marches de combien de kilomètres du coup? Est-ce qu'il faut une certaine forme physique pour pouvoir les faire?
Non, c'est 6-8 kilomètres, c'est tout à fait faisable.
D'accord, c'est des marches de bien-être quoi.
On découvre quand même le patrimoine, on a la chance d'avoir avec nous des gens qui nous présentent leur patrimoine, et donc il faut quand même s'arrêter pour parler. Quoi.
Et alors comment vous les avez élaborés d'ailleurs ces itinéraires? C'est en partenariat avec les villes qui accueillent?
Oui. C'est les communes qui font en général la marche et qui nous font bénéficier de visites dans des châteaux, dans des églises, et qui nous racontent des anecdotes sur la vie du village. Alors c'est comme ça qu'on a appris qu'à une certaine époque, les Romains avaient un point très important. Alors c'était où? À Oisé, par là, hein, je crois.
Oui, ouais. Oui, oui.
Et c'était un carrefour entre la ville du Mans, Angers et Tours. Donc c'était un centre très important. Bon, c'est le genre d'anecdotes qu'on apprend dans nos marches. Quoi.
Et donc ces anecdotes, cette découverte du patrimoine, elles sont nées par des guides du coup? C'est des marches guidées?
Ce sont des gens de la commune en général qui ont une passion pour l'histoire, une passion pour le patrimoine et qui se mettent à notre disposition pour nous présenter tout ce qu'il y a dans la commune. Et mais parfois c'est le maire lui-même, hein, ça arrive que ce soit le maire lui-même comme c'était à... Ah oui, c'est le maire qui nous a fait la visite du patrimoine.
Et si j'ai bien compris, ce sera aussi l'occasion de découvrir la culture congolaise.
Oui.
Alors ça, c'est après, on présente l'association et puis ce qu'on fait là-bas. Puis, on vend des petits trucs pour... qui viennent d'Afrique en règle générale. Et
vous parliez de contes congolais aussi tout à l'heure.
Voilà, oui, ce sont des contes, les contes de Bernard Nkalulu, qui les a transcrits, puisque c'était la littérature orale, et donc il les a retranscrits dans 4 ouvrages qui ont été publiés. Et donc ce sont les contes du Congo que nous présentons à ce moment-là, à la fin de la séance, un côté convivial Parce qu'il y a tout public, il y a des enfants, il y a des plus grands, mais les comptes, c'est pour tous les âges.
Et donc ça, ce sera à la fin de chaque étape?
À la fin de chaque étape.
Et alors justement, est-ce que vous arrivez à faire participer des gens qui n'ont pas forcément d'attache avec le Congo?
Oh bah, oui, heureusement, c'est le but aussi, hein, c'est de faire connaître cette culture, de faire connaître ce pays, ses besoins, ses attentes, sa culture. Enfin, voilà.
Et alors pour ce qui est de la participation solidaire, du coup, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un tarif fixe?
Alors on a établi un tarif à 5 euros pour que ce soit accessible. Bon, voilà, c'est une contribution, c'est pas une obligation, c'est une contribution. Mais si les gens viennent marcher solidairement, ça pose pas de problème.
5 euros pour une marche, et si vous en faites 3 ou plus, c'est 15 euros. Maintenant, tous les marcheurs, s'ils veulent contribuer au-delà, il n'y a aucun problème.
Il y a souvent des dons.
Vous ne les embêterez pas s'ils veulent donner 30 euros.
Voilà. Pas du tout, voir s'ils veulent adhérer à l'association.
Il y a même des gens qui viennent nous dire avant la marche, je ne peux pas rester avec vous, mais je vous fais un petit don.
Et alors, est-ce que d'autres actions sont prévues par l'association pour venir en aide à l'hôpital de Kinkala ou bien à d'autres structures, d'autres initiatives au Congo?
Oui, notre projet actuel, c'est de réhabiliter la coopérative d'un village qui a souffert d'intempéries. Et donc, les maisons ont été abîmées. Alors, comme on veut que les jeunes restent sur place pour pouvoir cultiver la terre, pour pouvoir faire vivre les villages, on a décidé d'acheter une machine à fabriquer des briques, une machine manuelle qui fabrique des briques. Et,
un broyeur.
Et un broyeur pour récupérer l'argile des autres maisons qui ont été abîmées. Et donc de réhabiliter une, deux, trois maisons en fonction des moyens que nous aurons à ce moment-là.
Une machine qui fabrique des briques?
Oui.
Ah
oui.
Alors en fait... Il broie les briques qui sont inutilisées, enfin, ou qui sont cassées et tout. Il les remélange avec de l'argile et il remoule de nouvelles briques. Ah bah, faut aller été en Afrique pour comprendre. c'est assez artisanal. Bon, après, on ne peut pas non plus payer une machine automatique. D'ailleurs, c'est pas bien parce qu'il n'y aurait pas d'emploi derrière. Donc aussi,
justement,
ça
peut créer un ou deux emplois.
Voilà.
Hein, et puis les briques, ils vont les utiliser pour reconstruire le village, mais ils pourront aussi les vendre à des villages environnants qui peuvent eux aussi avoir besoin.
Et bien, je vous remercie beaucoup Christiane Nkaloulou, secrétaire de l'association France-Congo-Brazzaville, ainsi que Alain Germont, membre du bureau de l'association. Merci beaucoup.
Mais merci beaucoup. Merci.
Radio Alpa, l'alternative.
Vous êtes toujours dans Sport en Sarthe sur Radio Alpa et on aborde notre deuxième sujet. Développer la formation à l'arbitrage, c'est le projet de l'entente Conéré Vibré 72 de handball, un projet honoré lors des journées de l'arbitrage de la Poste, mercredi 8 octobre. Le club s'est vu remettre le trophée Tous Arbitres. Alors en quoi consiste ce programme de formation de l'ECV 72? On en parle avec le coprésident de l'entente. Bonjour Jean-Marie Bobby.
Bonjour.
Vous organisez des stages pendant les vacances, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où c'est parti, en fait, cette idée de former les jeunes à l'arbitrage?
Alors, la formation à l'arbitrage, elle fait partie de l'ADN du club, et notamment des clubs qui sont à l'origine de l'entente Conéré-Vibré. Bon, juste pour faire un petit peu d'histoire, donc l'entente Conéré-Vibré, c'est un regroupement du club de la MJC Conéré et de UCJ Vibré. Donc, ces deux clubs avaient été créés en 1971 et 1970. Les deux clubs ont évolué chacun de leur côté de façon autonome jusqu'en 1996. À l'époque, donc les équipes étaient adultes, seniors, garçons, étaient dans des compétitions en concurrence, en fin de compte, sur la pré-nationale. Et on avait décidé, pour pouvoir conserver des niveaux sportifs et puis des niveaux et éventuellement améliorer ces niveaux, de se regrouper pour pouvoir concurrencer la partie sportive avec les Nantais et les Bretons à ce moment-là, parce qu'on est allé en Fédéral Ouest. Et donc, tout seul dans son coin, on ne pouvait pas y arriver. On a créé l'association Entente Conéré Vibré, qui a été créée sous l'égide de Patrick Marais et Michel Chantouin, qui étaient à ce moment-là les présidents des clubs, et puis qui ont créé l'entente Conéré Vibré. Donc l'arbitrage, alors dans le sport en général, et dans le handball en particulier, c'est un élément obligatoire. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match, il n'y a pas de jeu. Hein. Il faut forcément qu'il y ait un décisionnaire qui régule, qui explique et qui permette d'encadrer le match et la rencontre jusqu'à la fin.
Ouais, mais c'est vrai que c'est rare les clubs qui forment à l'arbitrage en fait.
Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect où on peut se dire que c'est obligatoire avec un minimum. Mais ça, c'est tous les clubs devraient former à l'arbitrage, parce que s'ils n'en forment pas, il n'y a pas d'arbitre, il y a un moment où on ne peut pas inscrire des équipes. Mais nous, on va au-delà, c'est-à-dire qu'on forme à l'arbitrage, mais on forme aussi à l'apprentissage de l'arbitrage, à l'apprentissage des règles, parce qu'on pourrait juste faire un petit quiz avec nos adhérents et les adhérents en général. Je pense que les résultats ne seraient pas forcément probants, et pourtant tout le monde à la compétence et la capacité de jouer, mais tout le monde n'a pas la connaissance de la règle. Donc nous, l'arbitrage commence à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on permet à tous les jeunes de se familiariser et d'apprendre la règle sans avoir l'obligation d'aller sur de l'arbitrage en tant que tel.
Et d'ailleurs, ça attire les jeunes, ces formations d'arbitre, parce que c'est vrai que d'ordinaire, quand on pratique un sport, c'est plutôt pour jouer, quoi.
Ça attire énormément les jeunes. On est même obligé de limiter l'âge d'entrée.
Ah oui?
Parce qu'on pourrait avoir des enfants qui ont 7, 8 ans, mais bon, on commence au moins de 10 ans, deuxième année en général. Et puis là, cette semaine, par exemple, on a fait nos 3 stages que l'on fait à chaque vacances. Il y avait 18 jeunes nouveaux qui ont, pour une première fois, suivi un stage d'arbitrage sur une journée complète. Alors, c'est pas de l'arbitrage théorique, pratique et autres, mais c'est de la familiarisation. On explique comment ce qu'est l'arbitre, ce qu'il fait, ce que l'on attend de lui. Et puis, ça permet à des jeunes, comme je disais, d'apprendre les règles et puis de mieux maîtriser certaines règles. Et la maîtrise de la règle fait qu'on performe un petit peu plus au niveau technique.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut être licencié à l'ECL 72 pour pouvoir pratiquer ces stages?
Alors oui, ce sont des stages internes, hein, donc ils sont réservés aux licenciés de l'entente Conneret-Vibray 72 et du MJC Conneret et du CJ Vibray. Ce sont ces 3 clubs et ce sont nos licenciés que l'on forme.
Ça demande quelles compétences en fait concrètement d'être arbitre?
Alors, l'arbitrage, je vais simplement, là je vais plagier parce que je vais répéter la phrase qu'on a eue donc, lors de la remise du trophée, alors, qui était initialement à Paris, puisqu'on est allé au musée de la Poste le 30 septembre. Et Philippe Valls, qui est le président de la Poste, qui était le président de la Poste à ce moment-là, a dit c'est un rôle de manager. C'est-à-dire que tous les arbitres, ils développent des compétences de manager. Il faut être en capacité de décider pour l'autre, hein, et il faut être en capacité d'expliquer sa décision, il faut être en capacité émotionnellement de pouvoir prendre la décision, parce que on sait, hein, il y a 60 millions, plus de 60 millions de Français, il y a 60 millions d'arbitres potentiels, mais il n'y en a que quelques-uns qui prennent la responsabilité de prendre le sifflet, de se mettre au milieu du terrain et de réguler et de faire en sorte que la rencontre se passe bien. Donc ce sont des capacités qui font que on développe notamment la compétence de décision, d'analyse, de distance, de justice. Et les jeunes, ça leur permet aussi, alors au handball, mais aussi dans tous les éléments de la vie, d'acquérir des compétences supplémentaires.
Et il y a aussi l'apprentissage de tout un code, toute une gestuelle. Alors vous formez spécifiquement des arbitres de handball. Chaque sport utilise un code d'arbitrage spécifique alors?
Chaque sport a ses règles. Effectivement, ces gestes, hein, le geste de la validation d'un but au handball n'est pas du tout la même qu'au football.
C'est quoi par exemple du coup ce geste
de validation? Quand il y a un binôme, on lève la main quand on est arbitre de champ, et l'arbitre de ce qu'on appelle le deuxième, qu'on appelle arbitre de zone, lève la main également, puisque c'est le deuxième qui vérifie que la balle est bien rentrée, et puis c'est lui qui siffle derrière. Mais donc effectivement, dans toutes les code d'arbitrage des différentes disciplines et au handball, il y a une gestuelle, mais l'objectif nous dans le début de la compétence, c'est pas de connaître la gestuelle. Ça, c'est pas la problématique. Et l'arbitrage des jeunes, hein, parce qu'on a aussi l'objectif, alors c'est un objectif à la fois fédéral, départemental et autres, c'est que tous les matchs jeunes soient arbitrés par des jeunes, mais simplement parce que l'imprécision de la compétence technique des jeunes qui jouent, puisqu'ils n'ont pas un savoir-faire d'un niveau international, ils débutent, donc ils ont de la compétence et ils ont aussi de l'imprécision. Et il faut en face que l'arbitrage soit sur le même pied. C'est-à-dire que si on mettait un arbitre qui siffle toutes les fautes strictement à la règle, au pied, au point, à la virgule près, les jeunes ne seraient pas en capacité de jouer en s'amusant. Le fait de faire arbitrer les jeunes par les jeunes, c'est-à-dire que, alors, il y a de l'imprécision dans l'arbitrage, il y a de l'imprécision dans le jeu, et ces deux niveaux d'imprécision font que c'est sur le même pied d'égalité et ça va bien pour tout le monde.
C'est-à-dire
que
pas la même exigence d'arbitrage quand on arbitre un match de jeunes avec un match professionnel.
Exactement. Effectivement, parce que les enjeux financiers chez nous, ils sont quand même de zéro. Hein. Les matchs professionnels, les enjeux financiers sont forcément un peu plus importants. Mais il faut aussi adapter l'arbitrage en fonction de ce que l'on souhaite. Et c'est la pyramide, elle est la même. Hein. C'est-à-dire que nous, on est sur la base, on développe les compétences et les arbitres se forment et puis progressent et puis apprennent des compétences supplémentaires et deviennent plus rigoureux. Mais la rigueur, ça s'apprend sur du moyen à long terme.
Et d'ailleurs, à l'issue d'un stage, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce que vous continuez à former même après ces stages-là?
Alors, nous, on forme sur trois niveaux. Au niveau du club, c'est-à-dire qu'on a les débutants qui débutent réellement, qui n'ont jamais fait d'arbitrage. Après, on a un niveau intermédiaire, c'est ceux qui ont déjà fait, qui ont commencé à arbitrer et qui, c'est pour développer les compétences au niveau de l'arbitrage. Et puis après, on a un niveau supérieur, ce sont les jeunes qui sont déjà également qui ont suivi des stages au niveau de la commission technique d'arbitrage de la Ligue des Pays de la Loire et du département de la Sarthe. Et ces jeunes-là, on les accompagne toujours, mais là, on devient sur des choses un peu plus rigoureuses. Il y a un peu plus de technique d'arbitrage. Et non pas, ce n'est pas une connaissance générale. Là, ça devient un peu plus précis où on essaie de les accompagner sur le niveau le plus important.
Et donc, c'est eux que vous mettez en situation dans des matchs de jeunes, du coup?
Alors, on organise des arbitrages sur les stages sur différentes formes. C'est-à-dire qu'il y a forcément des supports techniques. Donc, c'est soit sur des journées avec un support sur des moins de 14, des moins de 15, des moins de 16, des moins de 17. Et puis, on convie les arbitres qui sont adaptés à ce moment-là, qui s'en rapprochent pour pouvoir leur faire comprendre un petit peu les besoins de la rigueur supplémentaire pour pouvoir arbitrer sur ces niveaux-là. Et l'objectif, c'est d'accompagner un maximum d'arbitres pour qu'ils puissent aller arbitrer un maximum de matchs à l'extérieur pour se faire plaisir. Parce que l'arbitrage, il y a aussi un point important et le point prioritaire, c'est aussi de se faire plaisir. On n'est pas simplement là à arbitrer pour arbitrer, c'est qu'on se fait plaisir en arbitrant.
Et comment on prend ce plaisir? Parce que c'est vrai que ça ne doit pas être facile de ne pas s'impliquer complètement dans la partie, de ne pas prendre parti justement. Est-ce que vos jeunes arbitres en formation, ils arrivent à tenir cette distance nécessaire du rôle d'arbitre, tout en s'amusant quand même?
Ça fait partie de l'apprentissage, c'est qu'effectivement, on peut avoir des jeunes arbitres qui sont peut-être en l'air, qu'ils soient un peu, pas étourdis, mais un peu, ils sont attirés par ce qui se passe autour. Et effectivement, ça fait partie de l'apprentissage, de la concentration, parce qu'on a besoin de concentration. Mais même si on peut s'amuser, mais on a besoin d'être un peu plus concentré quand on arbitre que quand on joue. Et donc, ça fait partie aussi de la formation. C'est-à-dire qu'il faut avoir une organisation pour pouvoir maîtriser le maximum de choses et pouvoir répondre à l'instant immédiat, parce que la décision, c'est immédiatement qu'il faut qu'on essaie de la prendre. Et quand on n'y arrive pas, nous, le rôle des encadrants, des apprenants, c'est d'essayer de faire en sorte que comment on s'organise pour prendre la décision la meilleure possible, la bonne c'est l'idéal, mais comment on s'organise et à quel moment on doit s'organiser pour prendre telle décision.
Et alors, est-ce que vous savez si certains ont continué l'arbitrage par la suite, voir si c'est devenu un métier pour certains d'entre eux? Parce que vous avez des retours là-dessus.
À aujourd'hui, on n'a pas d'arbitre dont c'est devenu un métier, parce qu'au handball, il n'y a pas d'arbitre professionnel de toute façon.
Pas du tout.
Ça s'en discute. Ça se discute au niveau de la fédération pour l'élite, vraiment pour l'élite. Mais sinon, il n'y a pas d'arbitre professionnel. Mais par contre, nous, on a des arbitres, notamment les prédécesseurs, Patrick Marais, qui a arbitré avec un binôme, Dominique Gauthier, avec Alain Poisneau avant, qui ont arbitré au niveau national. On a des jeunes qui arbitrent de temps en temps des divisions moins de 17 féminines nationales ou moins de 18 garçons nationales et également. L'objectif du club, c'est aussi de permettre à ces jeunes-là d'aller le plus haut possible en fonction de leurs compétences, de leurs envies, parce que au niveau statistique, il est plus simple d'aller au niveau en tant qu'arbitre qu'en tant que joueur ou joueuse. Donc, si on veut aller au niveau, à un moment, si on était arbitre et qu'on se donnait à fond dans l'arbitrage, on aurait certainement plus de chances de pouvoir aller au niveau qu'en étant joueur, parce que la masse n'est pas la même, mais on les accompagne à tout niveau, mais on accompagne aussi tous les jeunes ou les moins jeunes qui veulent simplement arbitrer le week-end un match de première division territoriale, de deuxième division, d'honneur région, d'excellence région et autres. Nous, on accompagne l'ensemble, hein, vraiment du début à la fin. C'est pour ça qu'on a donc au total 50 jeunes et moins jeunes arbitres au club, hein, qui sont à la fois des adultes pour une dizaine d'entre eux, et puis après les 38 autres, ce sont des jeunes qui sont légèrement majeur, tout juste majeur, 22, 24 ans, et puis jusqu'à 9, 10 ans pour les tout débutants.
Oui, donc vous n'avez pas des ambitions compétitives, c'est vraiment des ambitions de formation d'activité ludique.
Voilà, c'est exclusivement de la formation, et après on les accompagne aussi pour quand même aller arbitrer des matchs officiels. Donc ceux qui ont passé le stade du niveau d'initiation derrière, quand on fait le troisième stage, et qui sont, ils ont fait un stage au niveau de la commission technique d'arbitrage de la Ligue, c'est aussi pour arbitrer des matchs officiels à l'extérieur et faire en sorte que les matchs du week-end puissent se dérouler dans de bonnes conditions.
Je vous remercie Jean-Marie Bobby, coprésident de l'entente Conneret Vibre et 72 de Handball. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne soirée.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver ce numéro et tous les précédents en podcast sur radioalpa.com. Dans les infos de la rédaction, Sport en Sarthe revient vendredi 31 octobre et d'ici là, on se retrouve bien sûr lundi 27 pour C'est d'actu sur Radio Alpa, bien évidemment.